Honoré de Balzac, Illusion perdue, 28. Coralie et Lucien allèrent se promener au bois de Boulogne. Ils y rencontrèrent encore la marquise d'Espard, Madame de Bargeton et le baron Châtelet. Madame de Bargeton regarda Lucien d'un air séduisant qui pouvait passer pour un salut. Camusot avait commandé le meilleur dîner du monde. Coralie, en se sachant débarrassée de lui, fut si charmante pour le pauvre marchand de soieries qu'il ne se souvint pas, durant les 14 mois de leur liaison, de l'avoir vue si gracieuse ni si attrayante. « Allons, se dit-il, restons avec elle, quand même. » Camusot proposa secrètement à Coralie une inscription de 6 000 livres de rente sur le grand livre, que ne connaissait pas sa femme, si elle voulait rester sa maîtresse, en consentant à fermer les yeux sur ses amours avec Lucien. Trahir un pareil ange? Mais regarde-le donc, pauvre magot, et regarde-toi, dit-elle en lui montrant le poète que Camusot avait légèrement étourdi en le faisant boire. Camusot résolut d'attendre que la misère lui rendît la femme que la misère lui avait déjà livrée. « Je ne serai donc que ton ami, dit-il en la baisant au front. Lucien laissa Coralie et Camusot pour aller aux galeries de bois. Quel changement son initiation au mystère du journal avait produit dans son esprit! Il se mêla sans peur à la foule qui ondoyait dans les galeries. Il eut l'air impertinent parce qu'il avait une maîtresse. Il entra chez Doria d'un air dégagé parce qu'il était journaliste. Il y trouva grande société. Il donna la main à Blondet, à Nathan, à Finot, à toute la littérature avec laquelle il avait fraternisé depuis une semaine. Il se crut un personnage et se flatta de surpasser ses camarades. La petite pointe de vin qui l'animait le servit à merveille. Il fut spirituel et montra qu'il savait hurler avec les loups. Néanmoins, Lucien ne recueillit pas les approbations tacites, muettes ou parlées sur lesquelles il comptait. Il aperçut un premier mouvement de jalousie parmi ce monde, moins inquiet que curieux, peut-être, de savoir quelle place prendrait une supériorité nouvelle et ce qu'elle avalerait dans le partage général des produits de la presse. Finot, qui trouvait en Lucien une mine à exploiter, Lousteau, qui croyait avoir des droits sur lui, furent les seuls que le poète vit souriant. Lousteau, qui avait déjà pris les allures d'un rédacteur en chef, frappa vivement au carreau du cabinet de Doria. « Dans un moment, mon ami, » lui répondit le libraire en levant la tête au-dessus des rideaux verts et en le reconnaissant. Le moment dura 1 heure, après laquelle Lucien et son ami entrèrent dans le sanctuaire. « Eh bien, avez-vous pensé à l'affaire de notre ami ?» dit le nouveau rédacteur en chef. « Certes, » dit Doria en se penchant sultanesquement dans son fauteuil. « J'ai parcouru le recueil. Je l'ai fait lire à un homme de goût, à un bon juge, car je n'ai pas la prétention de m'y connaître. Moi, mon ami, j'achète la gloire toute faite. » comme cet Anglais achetait l'amour. Vous êtes aussi grand poète que vous êtes joli garçon, mon petit, dit Doria. Foi d'honnête homme, je ne dis pas de libraire, remarquez. Vos sonnets sont magnifiques, on n'y sent pas le travail, ce qui est rare quand on a l'inspiration et de la verve. Enfin, vous savez rimer, une des qualités de la nouvelle école. Vos marguerites sont un beau livre. « Mais ce n'est pas une affaire, et je ne peux m'occuper que de vastes entreprises. Par conscience, je ne veux pas prendre vos sonnets. Il me serait impossible de les pousser. Il n'y a pas assez à gagner pour faire les dépenses d'un succès. D'ailleurs, vous ne continuerez pas la poésie. Votre livre est un livre isolé. Vous êtes jeune, jeune homme. Vous m'apportez l'éternel recueil des premiers vers que font, au sortir du collège, tous les gens de lettres, auxquels ils tiennent tout d'abord et dont ils se moquent plus tard. Lousteau, votre ami, doit avoir un poème caché dans ses vieilles chaussettes. N'as-tu pas un poème, Lousteau ? Dit Doria en jetant sur Étienne un fin regard de compère. Et comment pourrais-je écrire en prose ? Dit Lousteau. Eh bien, vous le voyez, il ne m'en a jamais parlé. Mais notre ami connaît la librairie et les affaires, reprit Doria. Pour moi, la question, dit-il en câlinant Lucien, n'est pas de savoir si vous êtes un grand poète. Vous avez beaucoup, mais beaucoup de mérite. Si je commençais la librairie, je commettrais la faute de vous éditer. Mais d'abord, aujourd'hui, mes commanditaires et mes bailleurs de fonds me couperaient les vivres. Il suffit que j'y aie perdu 20 000 francs l'année dernière pour qu'ils ne veuillent entendre à aucune poésie. Et ils sont mes maîtres. Néanmoins, la question n'est pas là. J'admets que vous soyez un grand poète. Serez-vous fécond? Pondrez-vous régulièrement des sonnets? Deviendrez-vous 10 volumes? Serez-vous une affaire? Eh bien, non. Vous serez un délicieux prosateur. Vous avez trop d'esprit pour le gâter par des chevilles. Vous avez à gagner 30 000 francs par an dans les journaux, et vous ne les troquerez pas contre 3 000 francs que vous donneront très difficilement vos hémistiches, vos strophes et autres ficharades. Vous savez, Doria, que monsieur est du journal, dit Lousteau. Oui, répondit Doria, j'ai lu son article, et dans son intérêt, bien entendu, je lui refuse les marguerites. Oui, monsieur. Je vous aurai donné plus d'argent dans 6 mois d'ici pour les articles que j'irai vous demander que pour votre poésie invendable. « Et la gloire ! » s'écria Lucien. Doria et Lousteau se mirent à rire. « Dame, dit Lousteau, ça conserve des illusions. »« La gloire, répondit Doria, c'est 10 ans de persistance et une alternative de 100 000 francs de perte ou de gain pour le libraire. Si vous trouvez des fous qui impriment vos poésies, dans 1 an d'ici, vous aurez de l'estime pour moi, en apprenant le résultat de leur opération. « Vous avez là le manuscrit ? » dit Lucien froidement. « Le voici, mon ami, » répondit Doria, dont les façons avec Lucien s'étaient déjà singulièrement édulcorées. Lucien prit le rouleau sans regarder l'état dans lequel était la ficelle, tant Doria avait l'air d'avoir lu les marguerites. Il sortit avec Lousteau sans paraître ni consterné ni mécontent. Doria accompagna les deux amis dans la boutique en parlant de son journal et de celui de Lousteau. Lucien jouait négligemment avec le manuscrit des marguerites. « Tu crois que Doria a lu ou fait lire tes sonnets ?» lui dit Étienne à l'oreille. « Oui, dit Lucien. Regarde les scellés. » Lucien aperçut l'encre et la ficelle dans un état de conjonction parfaite. « Quel sonnet avez-vous le plus particulièrement remarqué ?» dit Lucien au libraire en pâlissant de colère et de rage. « Ah, ils sont tous remarquables, mon ami !» répondit Doria. « Mais celui sur la marguerite est délicieux. Il se termine par une pensée fine et très délicate. Là, j'ai deviné le succès que votre prose doit obtenir. Aussi vous ai-je recommandé sur le champ à Finot. Faites-nous des articles. Nous les paierons bien. Voyez-vous, pensez à la gloire. C'est fort beau. Mais n'oubliez pas le solide et prenez tout ce qui se présentera. Quand vous serez riche, vous ferez des vers. » Le poète sortit brusquement dans les galeries pour ne pas éclater. Il était furieux. « Eh bien, enfant, dit Lousteau qui le suivait, sois donc calme, accepte les hommes pour ce qu'ils sont. des moyens. Veux-tu prendre ta revanche ?
À tout prix, dit le poète.
Voici un exemplaire du livre de Nathan que Doria vient de me donner et dont la seconde édition paraît demain. Relis cet ouvrage et fais un article qui le démolisse. Félicien Vernou ne peut souffrir Nathan, dont le succès nuit, à ce qu'il croit, au futur succès de son ouvrage. Une des manies de ces petits esprits est d'imaginer que, sous le soleil, il n'y a pas de place pour deux succès. Aussi fera-t-il mettre ton article dans le grand journal auquel il travaille.
Mais que peut-on dire contre ce livre ? Il est beau ! S'écria Lucien.
Ah ça, mon cher, apprends ton métier, dit en riant Lousteau. Le livre, fût-il un chef-d'œuvre, doit devenir sous ta plume une stupide niaiserie, une œuvre dangereuse et malsaine. Mais comment ? Tu changeras les beautés en défauts.
Ah, je suis incapable d'opérer une pareille métamorphose.
Mon cher, voici la manière de procéder en semblable occurrence. Attention, mon petit, tu commenceras par trouver l'œuvre belle, et tu peux t'amuser à écrire alors ce que tu en penses.
Le public se dira, ce critique est sans jalousie, il sera sans doute impartial.
Dès lors, le public tiendra ta critique pour consciencieuse. Après avoir conquis l'estime de ton lecteur, tu regretteras d'avoir à blâmer le système dans lequel de semblables livres vont faire entrer la littérature française. La France, diras-tu, ne gouverne-t-elle pas l'intelligence du monde entier ? Jusqu'aujourd'hui, de siècle en siècle, les écrivains français maintenaient l'Europe dans la voie de l'analyse, de l'examen philosophique, par la puissance du style et par la forme originale qu'ils donnaient aux idées. Ici, tu places, pour le bourgeois, un éloge de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de Montesquieu, de Buffon. Tu expliqueras combien en France la langue est impitoyable. Tu prouveras qu'elle est un vernis étendu sur la pensée. Tu lâcheras des axiomes comme « Un grand écrivain en France est toujours un grand homme ». Il est tenu par la langue à toujours penser. Il n'en est pas ainsi dans les autres pays, etc. Tu démontreras ta proposition en comparant Rabener, un moraliste satirique allemand, à la Bruyère. Il n'y a rien qui pose un critique comme de parler d'un auteur étranger inconnu. Kant est le piédestal de Cousin. Une fois sur ce terrain, tu lances un mot qui résume et explique au niais le système de nos hommes de génie du dernier siècle, en appelant leur littérature une littérature idéée. Armé de ce mot, tu jettes tous les morts illustres à la tête des auteurs vivants. Tu expliqueras alors que de nos jours, il se produit une nouvelle littérature où l'on abuse du dialogue, la plus facile des formes littéraires, et des descriptions qui dispensent de penser. Tu opposeras les romans de Voltaire, de Diderot, de Sterne, de Le Sage, si substantiels, si incisifs, aux romans modernes, où tout se traduit par des images et que Walter Scott a beaucoup trop dramatisé. Dans un pareil genre, il n'y a place que pour l'inventeur. Le roman, à la Walter Scott, est un genre et non un système, diras-tu. Tu foudroieras ce genre funeste, où l'on délaie les idées, où elles sont passées au laminoir. Genre accessible à tous les esprits, genre où chacun peut devenir auteur à bon marché, genre que tu nommeras enfin la littérature imagée. Tu feras tomber cette argumentation sur Nathan, en démontrant qu'il est un imitateur et n'a que l'apparence du talent. Le grand style serré du XVIIIe siècle manque à son livre. Tu prouveras que l'auteur y a substitué les événements aux sentiments.
Le mouvement n'est pas la vie. Le tableau n'est pas l'idée. »
Lâche de ces sentences-là, le public les répète. Malgré le mérite de cette œuvre, elle te paraît alors fatale et dangereuse. Elle ouvre les portes du temple de la gloire à la foule. Et tu feras apercevoir, dans le lointain, une armée de petits auteurs empressés d'imiter cette forme. Ici, tu pourras te livrer, dès lors, à de tonnantes lamentations sur la décadence du goût, et tu glisseras l'éloge de messieurs Étienne, Jouy, Tissot, Gosse, Duval, Jay, Benjamin Constant, Aignan, Baour-Lormian, Villemain, les coryphées du parti libéral napoléonien, sous la protection desquels se trouve le journal de Vernou. Tu montreras cette glorieuse phalange, résistant à l'invasion des romantiques, tenant pour l'idée et le style contre l'image et le bavardage, continuant l'école voltairienne et s'opposant à l'école anglaise et allemande, de même que les 17 orateurs de la gauche combattent pour la nation contre les ultras de la droite. Protégé par ces noms révérés de l'immense majorité des Français, qui sera toujours pour l'opposition de la gauche, tu peux écraser Nathan, dont l'ouvrage, quoique renfermant des beautés supérieures, donne en France droit de bourgeoisie à une littérature sans idée. Dès lors, il ne s'agit plus de Nathan ni de son livre, comprends-tu, mais de la gloire de la France. Le devoir des plumes honnêtes et courageuses est de s'opposer vivement à ces importations étrangères. Là, tu flattes l'abonné. Selon toi, la France est une fine commère. Il n'est pas facile de la surprendre. Si le libraire a, par des raisons dans lesquelles tu ne veux pas entrer, escamoté un succès, le vrai public a bientôt fait justice des erreurs causées par les 500 niais qui composent son avant-garde. Tu diras qu'après avoir eu le bonheur de vendre une édition de ce livre, le libraire est bien audacieux d'en faire une seconde, et tu regretteras qu'un si habile éditeur connaisse si peu les instincts du pays. Voilà tes masses. Saupoudre-moi d'esprit ces raisonnements. Relève-les par un petit filet de vinaigre. Et Doria est frit dans la poêle aux articles. Mais n'oublie pas de terminer, en ayant l'air de plaindre dans Nathan, l'erreur d'un homme à qui, s'il quitte cette voie, la littérature contemporaine devra de belles œuvres. Lucien fut stupéfait en entendant parler Lousteau. À la parole du journaliste, il lui tombait des écailles des yeux. Il découvrait des vérités littéraires qu'il n'avait même pas soupçonnées. « Mais ce que tu me dis, s'écria-t-il, est plein de raison et de justesse. » « Et sans cela, pourrais-tu battre en brèche le livre de Nathan ?» dit Lousteau. « Voilà, mon petit, une première forme d'article qu'on emploie pour démolir un ouvrage. C'est le pic du critique. Mais il y a d'autres formules. Ton éducation se fera. Quand tu seras obligé de parler absolument d'un homme que tu n'aimeras pas, quelquefois les propriétaires, les rédacteurs en chef d'un journal ont la main forcée. Tu déploieras les négations de ce que nous appelons l'article de fond. On met en tête de l'article le titre du livre dont on veut que vous vous occupiez. On commence par des considérations générales dans lesquelles on peut parler des Grecs et des Romains, puis on dit à la fin « Ces considérations nous ramènent au livre de Monsieur Untel » qui sera la matière d'un second article. Et le second article ne paraît jamais. On étouffe ainsi le livre entre deux promesses. Ici, tu ne fais pas un article contre Nathan, mais contre Doria. Il faut un coup de pic. Sur un bel ouvrage, le pic n'entame rien, et il entre dans un mauvais livre jusqu'au cœur. Au premier cas, il ne blesse que le libraire, et dans le second, il rend service au public. Ces formes de critique littéraire s'emploient également dans la critique politique. La cruelle leçon d'Étienne ouvrait des cases dans l'imagination de Lucien, qui comprit admirablement ce métier.
« Allons au journal, » dit Lousteau, « nous y trouverons nos amis, et nous conviendrons d'une charge à fond de train contre Nathan. Et ça les fera rire, tu verras !»